De 60 à 79 ans, un nouveau rappel est recommandé 6 mois après le premier. À partir de 80 ans, un nouveau rappel est recommandé 3 mois après le premier. N'attendez pas, prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Entrez dans le jardin de la France et partez à la découverte des nouvelles renaissances en Centre-Val de Loire. Le Festival de la créativité et de l'art de vivre vous propose une programmation foisonnante dans des lieux d'exception où la nature et la culture se rencontrent. Expositions, spectacles, dégustations, plus de 500 événements vous attendent pour vivre des moments inoubliables et goûter à la douceur de vivre du Centre-Val de Loire. Au fil du fleuve sauvage, des vignes, des châteaux, les jardins s'animent et nous inspirent. Autant d'escapades inoubliables dans le jardin de la France. Tout le programme sur nouvelle-renaissance.com.
Allô ?
Ouais, Justine, ça va ? C'est Antoine.
Antoine.
Mais si, Antoine, 6ème B à Pasteur, on était dans la même classe. Dis, t'aurais pas 2000 euros ?
Non, mais tu peux aller sur l'appli LCL.
Avec Flex, le mini crédit instantané disponible via l'appli LCL, empruntez jusqu'à 2000 euros avec votre smartphone. Quelques clics suffisent.
LCL, ma vie, ma banque.
LCL est le service client de l'année 2022. Catégorie banque, offre de crédit d'une durée inférieure à 3 mois non soumise à la réglementation sur le crédit à la consommation. Sous réserve d'acceptation par LCL. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours.
France Inter, il est très précisément 13h. Il est donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Et dans l'actualité ce dimanche, le début du nouveau gouvernement entaché par une affaire de violence sexuelle présumée. Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, accusé de viol par deux femmes. Un signalement avait été adressé à La République En Marche et au Parti Les Républicains quelques jours avant sa nomination. Damien Abad nie en bloc les accusations dans un communiqué publié ce matin. La première ministre, Elisabeth Borne, assure qu'elle n'était pas au courant. S'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision, assure Elisabeth Borne. Vous l'entendrez, nous reviendrons dans un instant sur ce que l'on sait des accusations de violence sexuelle contre le nouveau ministre. L'actualité à l'étranger, avec le retour de l'ancien roi Juan Carlos en Espagne, une courte visite qui crée la polémique. Juan Carlos est au cœur de plusieurs scandales financiers. La guerre en Ukraine et l'armée russe qui continue de pilonner le Donbass. Nous irons porte d'Auteuil pour le tennis et Roland Garros qui a débuté ce matin. On attend l'entrée en lice du phénomène espagnol Alcaraz. 6 Français également sont engagés au premier tour aujourd'hui. La météo, 21 départements placés en vigilance orange aux orages. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Le nouveau ministre Damien Abad, accusé de viol par deux femmes. L'une des deux femmes avait porté plainte en 2017, une plainte classée sans suite. Une deuxième femme a contacté l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique pour des faits présumés de viol. Information révélée par Mediapart et que confirme l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Alors Damien Abad, l'ancien patron des députés LR et nommé vendredi ministre des Solidarité, de l'autonomie et des personnes âgées, conteste catégoriquement les faits.
Il dénonce des propos inconcevables et abjects. Et pour expliquer qu'il n'a ni drogué ni violé une femme inconsciente, c'est son handicap qu'il met en avant. « Je suis contraint », écrit Damien Abad, « de préciser que dans ma situation, il ne m'est nullement possible d'imposer telle ou telle pratique. » Une réponse ferme aux accusations que relate Mediapart, avec un premier témoignage d'une femme qui affirme qu'elle s'est réveillée en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel aux côtés de Damien Abad sans aucun souvenir. Le deuxième d'une femme qui a porté plainte pour viol en 2017, plainte classé sans suite quelques mois plus tard. Des accusations donc que Damien Abad conteste avec la plus grande force, ce sont ses mots, mais qui prennent un relief particulier à la veille du premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, obligeant la première ministre en déplacement dans le Calvados à réagir.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agressions, de harcèlement, puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. Je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
Pas question donc de départ, de démission pour l'instant. Je ne me laisserai pas déstabiliser, précise Damien Abad, qui dit vouloir consacrer toute son énergie à sa nouvelle mission.
Et vous le disiez à la veille du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, Antoine Gignot, ces témoignages entachent l'entrée dans ce gouvernement de Damien Abad. Bonjour, Ajra Mohamad.
Ah, bonjour.
Alors, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique vous confirme avoir envoyé un signalement par mail à La République En Marche et au Parti Les Républicains, un signalement, Ajra, envoyé plusieurs jours avant l'annonce du nouveau gouvernement.
Oui, l'Observatoire envoie ce signalement lundi dernier. À ce moment-là, le nouveau gouvernement n'est pas encore dévoilé. Madeleine Da Silva, cofondatrice du collectif, alerte les deux parties concernées par email.
Nous avons écrit aux responsables de La République En Marche et de LR le lundi 16 mai. Suite à ce signalement, nous n'avons pas obtenu de réponse.
Vous les avez relancés ?
Oui, nous les avons relancés le 19 pour La République En Marche et le 20 mai pour LR.
Soit jeudi et vendredi, la veille et le jour même de la présentation du nouveau gouvernement. Alors, parmi les destinataires de ce mail, il y a Aurélien Pradier, le numéro 3 de LR, mais aussi Christophe Castaner et Stanislas Guérini pour LREM. Interrogé par Mediapart, ces deux derniers s'expliquent. Castaner, le patron des députés de la majorité, affirme n'avoir rien reçu, alors que Guérini dit, lui, ne pas avoir regardé ses mails avant samedi. Hier donc, mais pour Madeleine Da Silva, difficile d'y croire.
Si vous voulez, je suis extrêmement étonnée que ça soit un haut fonctionnaire, que ça soit un politique qui ne regarde pas ses mails, d'accord ? Ça montre bien et ça prouve bien ce que nous on dénonce, qu'il y a un manque de structuration pour la lutte contre les violences sexuelles dans le monde politique. C'est-à-dire que si, effectivement, il existait des instances, si Stanislas Guérini se disait qu'il pouvait effectivement être vigilant sur ces questions, il n'y aurait pas de problème de non-réception de mails. Surtout à la veille de la constitution d'un gouvernement.
Gouvernement dans lequel Damien Abad n'a plus sa place, estime cette militante féministe. Il doit démissionner, dit-elle, et la majorité doit prendre ses responsabilités.
Personne ne me fera croire qu'il n'y a pas d'enquête sur ces hommes avant qu'ils rentrent au gouvernement. Ce que je pense, c'est que la question de il y a une banalisation des violences sexuelles et que cet homme soit mis en cause pour viol, finalement, n'inquiète pas grand monde ou ne touche pas grand monde.
Damien Abad, qui, rappelons-le, nie totalement ses accusations. La plainte déposée contre lui en 2017 par l'une de ces deux femmes a été classée sans suite. Mais l'affaire pourrait bien rebondir tout de même sur le plan juridique, puisque l'Observatoire nous annonce avoir adressé également un signalement au procureur de la République en fin de semaine.
Et le parquet, Ajra Mohamad, le parquet de Paris, confirme avoir bien reçu ce signalement. Il confirme également, le parquet de Paris, que la première plainte déposée en 2017 a été classée sans suite. L'actualité à l'étranger maintenant et d'abord en Espagne. Presque deux ans après s'être exilé à Abu Dhabi, l'ancien roi Juan Carlos Ier, 84 ans au cœur de plusieurs scandales financiers ces dernières années, a fait son retour en Espagne, arrivé en Galice. Il rencontrera demain sa famille à Madrid. En premier lieu, son fils, le roi Felipe VI, avant de repartir pour les Émirats Arabes Unis. Une courte visite qui crée la polémique en Espagne et qui divise la société et la classe politique. Sur place à Madrid, Marie-Hélène Ballestero.
Au sein du gouvernement, les avis divergent. Le roi émérite devait-il revenir en Espagne ? Doit-il donner des explications ? La porte-parole de l'exécutif Isabel Rodríguez du Parti Socialiste préfère saluer la figure du nouveau roi, Felipe VI. C'est une décision personnelle du roi émérite et nous maintenons une relation avec l'actuelle maison royale, avec le roi Felipe VI, qui a fait un effort très important pour avancer dans l'exemplarité et la transparence de la maison royale. Mais pour les membres de l'exécutif du Parti Unidas Podemos, son retour est indécent. Alberto Garzón, ministre de la Consommation, a été très virulent.
Nous sommes confrontés à l'exemple le plus clair de l'impunité avec laquelle la maison royale espagnole a agi. Nous parlons d'un criminel reconnu. Toute l'Espagne sait que cette personne est un voleur.
Des accusations que réfutent les partis de droite en rappelant que les enquêtes judiciaires ouvertes contre Juan Carlos ont été classées sans suite. Cuca Gamarra, secrétaire général du Parti populaire, est ravi de cette visite.
Nous voulons souhaiter la bienvenue au roi émérite. Le gouvernement n'a pas à dire si un Espagnol peut venir ou non dans son pays.
Une visite bien embarrassante pour la maison royale qui souhaitait quelque chose de discret et austère. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
En Ukraine, la guerre meurtrière va entrer la semaine prochaine dans son 4e mois de combat. Et sur le terrain, l'armée russe continue de pilonner l'est de l'Ukraine et le Donbass. Moscou dit avoir pris le contrôle de la région de Lugansk, ce que les Ukrainiens démentent. Une bataille acharnée a lieu pour le contrôle de la ville de Severodonetsk, l'une des dernières poches de résistance de l'armée ukrainienne. Envoyé spécial dans le Donbass, Valérie Crovin.
Severodonetsk n'est pas encore tombée. Même si la ville est écrasée par les tirs de l'artillerie russe, la bataille se concentre actuellement sur sa banlieue. Les troupes russes tentent de s'approcher, mais la défense ukrainienne tient bon. Pour l'instant, le gouverneur de la région de Lugansk a laissé entendre qu'une contre-attaque était en préparation pour libérer la région. Selon le ministère de la Défense ukrainien, 8 chars russes ont été détruits hier et 11 attaques repoussées. Sur la route qui mène à Kramatorsk, porte d'entrée du Donbass, de nombreux véhicules militaires circulent. Ils transportent de l'artillerie, des chars, du ravitaillement pour les soldats qui se trouvent sur le front. On croise aussi quelques rares voitures conduites par des civils. Sur leur vitre arrière, des affiches ont été collées avec en lettres noires le mot « enfant ». Kramatorsk, Valérie Crova, France Inter.
Le président américain Joe Biden est arrivé ce matin au Japon, dernière étape de sa première tournée en Asie depuis son entrée en fonction à la Maison-Blanche. Une tournée en Asie sur fond de menaces nord-coréennes, d'ambition géopolitique de la Chine et de la guerre en Ukraine. Après la Corée du Sud, Joe Biden doit rencontrer demain le premier ministre japonais Fumio Kishida et l'empereur Naruhito. Le Japon est le premier allié des États-Unis en Asie et le président Biden doit présenter à Tokyo, un nouveau projet pour réaffirmer la position de meneur des États-Unis dans la région Indo-Pacifique. Correspondance à Tokyo, Karine Nishimura.
En ces temps troublés par la guerre en Ukraine, Fumio Kishida, premier ministre depuis moins d'un an, entend réaffirmer en personne à Joe Biden l'alignement du Japon sur les positions des États-Unis face à la Russie. Le dirigeant japonais veut un renforcement de l'alliance de défense et sécurité nippo-américaine. Car le Japon, protégé par les États-Unis, se sent sous une triple menace venant de Chine, Russie et Corée du Nord. Sur ce dernier point, le président Biden exhorte le Japon et la Corée du Sud à cesser de remuer leurs querelles historiques pour former avec les États-Unis un triangle économique et militaire uni face à Pyongyang. Joe Biden présentera à Tokyo le projet IPEF, cadre réglementaire et stratégique censé garantir la sécurité économique des pays de la région Indo-Pacifique. Et mardi se tiendra à Tokyo un sommet quadripartite, dit Quad, Japon, États-Unis, Inde et Australie. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et on revient en France avec l'événement sportif aujourd'hui, c'est le tennis et le début de Roland-Garros. Les premières rencontres ont débuté à 11h. En direct de Roland-Garros, Porte d'Auteuil, on retrouve Fabrice Abgral. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et on attend l'entrée en lice sur le court Philippe Chatrier du phénomène espagnol Carlos Alcaraz.
Ouais, c'est vrai, c'est l'attraction, hein, le joueur le plus attendu, d'abord parce que Carlos Alcaraz est très jeune, hein, il n'a que 19 ans, il pointe à la 6e place mondiale, alors qu'il y a un an, il n'était que 114e, et bien pourtant, il arrive ici avec ce statut de favori, un statut que cet Espagnol assume totalement, et il a gagné ce statut lors de ses 3 derniers mois, au cours desquels il s'est particulièrement distingué, puisque Carlos Alcaraz a remporté 4 tournois, dont 3 sur terre battue, à Rio, à Barcelone, mais surtout le Masters 1000 de Madrid, où il a dominé successivement Nadal, Djokovic et Zverev en finale. Carlos Alcaraz n'a peur de rien ni de personne. Envisager de gagner son premier tournoi du Grand Chelem ici à Roland-Garros, eh bien, ça ne lui fait pas peur, ce qui serait un petit exploit et en tout cas considérable à seulement 19 ans, puisque c'est l'âge qu'avait précisément, vous vous en souvenez, Rafael Nadal, quand en 2005, il a remporté le premier de ses 13 Roland-Garros.
Alors Fabrice, côté français, ils sont 6 aujourd'hui en lice sur les courts de Roland-Garros.
Oui, ils sont 6, mais il y en a déjà une qui a été éliminée. Il s'agit d'Harmonitane, 112e joueuse mondiale, battue par la colombienne Camila Osorio, 54e mondiale en 2-7, 6-4, 6-3. Alors il y a 5 autres Français sur le court, dont Grégoire Barrère, qui est actuellement opposé à Taro Daniel, le japonais. 4 jeux à 1 dans le premier set en faveur de Taro Daniel. Son nom, il va falloir suivre aussi Quentin Lis, opposé à l'américaine John Isner. Christina Mladenovic, opposée, elle, à Leila Fernandez, la canadienne finaliste de l'US Open en 2021. Et Clara Burel, grand espoir, 95e mondiale, opposée d'entrée sur le central tout à l'heure à la grecque Maria Sakkari, numéro 4 mondiale et demi-finaliste l'an passé.
Fabrice Abgral, invité de ce journal, Paul-Henri Mathieu, ancien joueur et consultant tennis de France Inter. Bonjour Paul-Henri Mathieu.
Bonjour.
Alors, on a toujours beaucoup d'espoir hein, lorsqu'un grand tournoi comme Roland-Garros débute. Où en est aujourd'hui, selon vous, le tennis français? Plusieurs joueurs arrêtent, hein, Tsonga, Simon, d'autres disputent peut-être leur dernier Roland-Garros, Gasquet, mon fils. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on peut être optimiste pour le tennis français?
C'est une bonne question. Optimiste, je suis pas sûr. Effectivement, on le sait tous, il y a un petit creux générationnel qui est là. Les anciens vont arrêter. Je pense à Tsonga, il y a Gilles Simon aussi qui va arrêter, Richard Gasquet sur la fin. Voilà, et la nouvelle génération tarde un petit peu à venir. Ils sont un petit peu moins bien classés. Ils ont besoin d'un petit peu plus, un petit peu plus de temps. Alors, on espère toujours des surprises hein, lors de ce Roland-Garros et dès que ce grand chelem commence. Ensuite, ils n'ont pas forcément le classement voilà, pour espérer d'aller très très loin, mais voilà, on espère qu'ils vont être boostés par l'événement.
Voilà pour le côté français. Alors, est-ce que au niveau mondial, on est aussi dans une période de renouvellement des joueurs de tennis? Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ne plus voir les stars comme Nadal, Federer ou Djokovic?
Oui, je pense que il y a une vraie page qui est en train de se tourner. Hein. Ça fait quelques saisons, mais là, c'est en train de s'accélérer. Federer, on ne sait pas exactement quand il va rejouer. Rafael Nadal. Voilà, on sait qu'il a quelques blessures, surtout au pied. On ne sait pas s'il va encore finir la saison. Djokovic est plutôt aussi sur la fin. Et donc, là, il faut s'habituer à des nouveaux visages. Hein. Je pense à Tsitsipas, Zverev, Alcaraz, Sinner, Berrettini, Rude. Il y en a quelques-uns. Félix Auger-Aliassime aussi, le Canadien. Donc, ça va être assez intéressant parce qu'il va y avoir un renouvellement aussi de toute cette génération.
Alors, vous parliez d'Alcaraz, de ce jeune joueur fantastique. Est-ce qu'on peut parler, comme dans d'autres sports, d'un ovni qui arrive dans le tennis mondial?
D'Alcaraz, oui, c'est un ovni qui arrive. Effectivement, on ne savait pas. Voilà, après Rafael Nadal, s'il y a un joueur qui était aussi emblématique et aussi fort que Rafael Nadal pouvait arriver quelques années après. En tout cas, c'est en train de se confirmer. Alors, c'est toujours difficile de dire hein, s'il va pouvoir égaler la carrière des trois grands aujourd'hui. En tout cas, il est sur les traces. Il a 19 ans, il a déjà gagné 2 Master 1000. En une année, il a une progression assez fulgurante. Il est 6e mondial. Et clairement, ça peut être un outsider ici, dans ce Roland-Garros.
Paul-Henri Mathieu, chez les femmes, il y a une joueuse ultra favorite. C'est la Polonaise Iga Świątek.
Oui, effectivement, Świątek est ultra favorite. Elle a gagné Roland-Garros il y a 2 ans. Ensuite, elle a eu un petit peu mal à confirmer. Et là, cette année, c'est vraiment une machine qui s'est lancée à nouveau. Elle est sur 28 victoires d'affilée. Les 5 derniers tournois qu'elle a disputés, elle les a gagnés. Elle est forcément la grandissime favorite de cette édition.
Merci beaucoup, Paul-Henri Mathieu. Merci, consultant de tennis de France Inter. Merci à vous.
Merci.
Voilà, Paul-Henri Mathieu, interview réalisée juste avant ce journal. Le sport encore. Et revenons maintenant sur la soirée de gala hier au Parc des Princes avec, comme le dit l'équipe, le non-transfert du siècle. Kylian Mbappé a annoncé hier soir devant les supporters du PSG qui restaient à Paris. Et dans la nuit, on a appris que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a été démis de ses fonctions. Mbappé prolonge et le PSG se prépare, dit-on, à une révolution pour relancer l'équipe. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Et il va falloir digérer ce nouvel échec européen cette année.
Oui, cette révolution, elle se prépare avec évidemment Mbappé comme chef de file, mais finalement l'attaquant a été déjà cette saison au cœur du jeu parisien. Ce qui va vraiment changer, c'est le projet, la philosophie du club. D'abord, un club moins bling-bling, un PSG moins tourné vers le marketing et l'image, mais plutôt vers le sportif et les titres. Et ça devrait se ressentir dans les transferts, ralentir sur les recrutements des stars, privilégier au contraire les jeunes, prometteurs. Pour le milieu de terrain, par exemple, un Aurélien Tchouaméni qui a fait une belle saison à Monaco pourrait être préféré à un Paul Pogba, champion du monde certes, mais moins en réussite ces dernières années. L'idée, c'est aussi de faire plus de place aux jeunes du PSG et surtout ne plus laisser partir les futures pépites formées au club, comme par le passé Kingsley Coman par exemple, pour qui le PSG se mord encore les doigts aujourd'hui. Reste à savoir qui pour prendre les rênes de ce changement. Il faut un nouveau directeur sportif. Le portugais Luis Campos, qui a brillé à Monaco et à Lille, serait un choix logique. Quant à l'entraîneur, Mauricio Pochettino est toujours pour l'instant en place, mais l'élimination précoce en Ligue des Champions ne joue pas évidemment en sa faveur. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane est régulièrement avancé. Zizou, proche des Qataris, est libre, mais pas sûr qu'il accepte de prendre le risque d'écorner son image de Marseillais.
Emma Sarango, merci. Le Festival de Cannes est le retour en compétition. Hier soir, de Christian Mungiu, il avait été Palme d'Or en 2007 avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Son nouveau film, donc du cinéaste roumain, s'intitule RMN, un film qui traite des peurs liées à l'immigration à l'échelle d'un petit village de Transylvanie et à l'arrivée Alexis de Meyer, une œuvre dérangeante, l'un des coups de poing cinématographiques de ce Festival de Cannes.
Mathias, un ouvrier roumain qui travaille en Allemagne, revient auprès de sa famille au moment de Noël. Cet homme taiseux, parfois inquiétant, découvre les fortes tensions liées à l'arrivée récente de 3 immigrés embauchés dans une usine en manque de main-d'œuvre. C'est un fait divers découvert dans la presse roumaine qui a inspiré Christian Mungiu.
Déjà, ça commence de quelque chose qui s'est passé. Alors, personne ne peut me dire que ça se pavait. Ça ne parle pas seulement de ces petites communautés là-bas. Ça parle de notre capacité des voir dans l'autre un ennemi tout de suite pour des très petites différences. Et malheureusement, on voit ça très bien en ce moment en Europe.
RMN est un film tortueux qui s'amuse parfois à nous perdre. Mungiu confirme son talent pour les mouvements de caméra déroutants et pour les plans-séquences renversants et notamment cette scène mémorable qui nous immerge totalement dans une salle des fêtes où les habitants réclament l'expulsion des 3 étrangers.
Je pensais qu'il n'y a personne, les jeunes réalisateurs, d'essayer de faire ça. Cette scène, c'est en scène des 17-18 minutes avec beaucoup de gens qui parlent en même temps. Mais c'était vraiment important pour les comédiens, pour la vérité de ce petit moment, de la voir comme ça.
Cette œuvre coup de poing qui dénonce autant la xénophobie que le patriarcat constitue sans aucun doute l'un des temps forts de la compétition cannoise. Le jury de Vincent Lindon serait bien inspiré de lui réserver samedi prochain une place au palmarès. Je te dis que
t'es une douce. Tu vas demain, quoi?
RMN de Christian Mungiu avec Alexis Demeyer. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Dans des températures souvent comprises entre 31 et 35 degrés cet après-midi dans la moitié sud, l'ambiance va devenir lourde et orageuse, dans un premier temps en Auvergne-Rhône-Alpes. Puis en seconde partie d'après-midi, d'autres orages vont se déclencher dans le quart sud-ouest avant de gagner ce soir et la nuit prochaine le Poitou-Charentes, le Limousin et le centre Val-de-Loire. Des orages localisés mais pouvant être violents avec de la grêle et des rafales, en particulier sur les départements des régions centrales placés en vigilance orange. Plus haut, des ondées émaillent un large quart nord-ouest. En fin de journée et la nuit prochaine, elles vont s'étendre entre le nord de la Loire et le quart nord-est en prenant une tournure orageuse. En fait, seuls les bords de la Méditerranée seront totalement épargnés.
Jean-Michel Golinski de Météo France.